Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.
Cédric Leray, bonjour, vous êtes directeur général adjoint stratégie et développement durable pour le groupe Polylogie. Merci d'accepter cette interview. Alors, un petit mot peut-être, on est en conférence, la conférence de presse vient de se terminer, hein, du groupe Polylogie. Un petit mot peut-être sur 2024 et votre stratégie RSE.
Oui, bonjour. On a une stratégie sur la RSE qui est au cœur de notre projet d'entreprise avec, pour 2024, un chantier très important pour nous qui est la politique d'insertion du groupe qu'on souhaite élaborer autour de 5 grands piliers. Le premier pilier, c'est celui, le rôle qu'on joue en tant qu'acheteur. En tant qu'acheteur, on peut exiger des clauses sociales vis-à-vis des entreprises qui travaillent avec nous. Et via ces clauses sociales, on peut favoriser le retour à l'emploi des habitants des quartiers dans lesquels on intervient. Et c'est important pour nous parce que parmi ces habitants, on trouve une partie de notre clientèle. Le deuxième pilier, c'est celui qui porte plutôt sur le fait qu'on est un employeur responsable et donc à travers notre rôle d'employeur, qu'on soit en capacité nous-mêmes directement de recruter des personnes qui ont besoin d'être accompagnées vers un retour à l'emploi. Et puis on souhaite aussi, dans ce rôle en tant qu'employeur, beaucoup insister sur le fait que nos collaborateurs peuvent s'engager et jouer un rôle de mentor vis-à-vis de certains de ces publics en difficulté. Le troisième levier sur lequel on souhaite agir, c'est celui du tiers de confiance. On est présent dans des grandes emprises territoriales avec notre patrimoine et on peut jouer un rôle d'identification de personnes qui sont aujourd'hui, on va dire, invisibles vis-à-vis des dispositifs d'accompagnement de retour vers l'emploi. Et donc, on peut faciliter ce lien entre le droit commun et les locataires qui seraient éloignés de ces dispositifs.
Et juste par rapport à ça, j'imagine que vous avez senti sur le terrain qu'il y avait un fort besoin, un besoin qui augmentait.
Oui, bien sûr. Et on voit aussi qu'il y a des ménages qui n'ont pas forcément les réflexes. Je pense notamment aux mamans qui, dans des familles monoparentales, qui ont encore plus de difficultés parfois pour accéder à un emploi, pour des raisons aussi d'organisation personnelle par rapport à la garde d'enfants. Autre pilier de cette politique d'insertion, c'est le fait d'être un acteur implanté dans les territoires et donc d'agir étroitement avec les associations, les entreprises d'insertion qu'on peut trouver sur ces territoires et aussi, évidemment, les collectivités locales qui peuvent avoir une politique active en matière d'insertion. Et puis, le dernier pilier qui est aussi important, c'est qu'on est un propriétaire engagé. Donc, on peut mettre à disposition des locaux en pied d'immeuble pour accueillir des structures d'insertion. Et puis, on peut aussi faciliter la mise en place de chantiers d'insertion pour créer de l'activité pour ces personnes qui ont besoin, à un moment donné, de franchir différentes étapes pour retrouver un emploi.
Et alors justement, on parle de la construction. Vous misez énormément sur le hors-site. Alors le hors-site, on en parle beaucoup en ce moment, hein, c'est un nouveau mode de construction. Donc pour nos éditeurs, en fait, c'est des pans entiers de bâtiments qui sont construits en usine, qui sont assemblés en usine et qu'on vient ramener sur le chantier. Donc il y a beaucoup moins de nuisances au niveau du chantier. Il y a de nombreux avantages, hein, pour le hors-site. Justement, qu'est-ce que vous constatez, vous, pour vous, concernant ces avantages?
Alors effectivement, vous avez parlé de la nuit, des nuisances qui sont réduites sur les chantiers, et c'est très important pour faciliter l'acceptabilité des projets immobiliers pour les populations riveraines et pour les élus derrière, évidemment. Donc c'est un argument très fort pour nous. Mais il y en a bien d'autres, en lien notamment avec notre politique RSE, le fait d'accompagner en fait la mutation d'un secteur économique, le fait que derrière le recours aux solutions hors site, on va avoir un gain de temps sur les opérations qu'on va pouvoir construire.
Il est de combien, ce gain de temps?
C'est très variable, et donc on attend de passer...
D'avoir du recul.
Exactement, de passer au concret de notre côté, mais certains indiquent jusqu'à 50% de réduction des délais de chantier, parce qu'on a la possibilité de mettre en parallèle les différentes étapes administratives qui sont nécessaires avec la réalisation dans l'industrie des premiers éléments structurels. Gain de temps, un impact environnemental bien mieux maîtrisé, hein, puisque en industrie on va avoir une utilisation de l'énergie beaucoup plus raisonnée, tout comme le recours aux matériaux. Et puis derrière tout ça, il y a aussi l'amélioration des conditions de travail, puisque ça veut dire qu'on est beaucoup moins exposé aux intempéries, notamment pour les ouvriers et les compagnons qui interviennent sur les chantiers. On a même la capacité à féminiser certains emplois qui sont aujourd'hui beaucoup occupés par les hommes.
Les emplois qui sont assez durs.
Oui, tout à fait. Ouais. Du fait qu'on est sur un chantier qui a des charges lourdes et qu'on est à l'extérieur. Avec l'industrialisation, évidemment, on lève toutes ces contraintes pour permettre d'ouvrir ces emplois aux femmes, dont celles dont on parlait tout à l'heure sur notre politique d'insertion, par exemple. Et puis, le dernier aspect qui est aussi très important, c'est la maîtrise de la qualité. En fait, quand on réalise une opération hors site, donc dans l'industrie, on va avoir des process qui permettent de contrôler tout ce qu'on fait au fur et à mesure.
Il y a plus de contrôle.
Il y a plus de contrôle et derrière, ça veut dire moins de réserves à l'arrivée quand on a la livraison du bâtiment.
Donc des bâtiments de meilleure qualité.
Voilà, c'est ça qui est derrière le hors-site, c'est le fait d'avoir des opérations de meilleure qualité et donc moins de réserves à lever quand on a livré. À travers cette, comme on est conscient de ces avantages plutôt, on s'est aussi fixé un objectif de manière à entrer dans cette transition. Cet objectif, c'est d'avoir au moins 50% des opérations réalisées en 2030 qui font appel à tout ou partie de solutions hors site. Et donc, on a placé un jalon intermédiaire en 2028 de manière à ce que on franchisse un tiers d'opérations avec des solutions hors site. Et pour atteindre ces objectifs, au-delà de la trajectoire que je viens d'évoquer, on a mis en place tout un parcours de formation pour nos responsables de programme en construction et en réhabilitation, de manière à ce qu'ils disposent de toutes les compétences nécessaires pour mettre en place un projet hors site. Et ça va sur une compréhension des enjeux pour les industriels, à l'adaptation des procédures de marché public, la question des assurances, la gestion du chantier. Donc c'est vraiment vaste. Et à l'issue de tout ça, on aura une partie des personnes qui auront suivi ce parcours qui seront certifiés comme pilotes d'opérations hors site. Donc dès cette année, on compte avoir au moins une dizaine de responsables de programme certifiés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La formation, c'est indispensable pour pouvoir atteindre l'objectif que j'évoquais.
Et elle est beaucoup moins longue que quand c'est pas du hors site, hein, faut le dire aussi. La formation.
Elle est beaucoup moins longue.
Enfin, c'est moins fastidieux, c'est moins long aussi que pour des programmes sans hors site, non ?
La formation en tant que telle ?
Ouais.
Oh bah non, parce qu'il faut forcément. Non, pas forcément, okay. Parce qu'il faut en fait, il faut plutôt adapter ce qu'on sait déjà sur la construction traditionnelle pour intégrer les contraintes du hors site quand on réalise une opération de cette nature.
Juste, alors, on en parlait tout à l'heure en conférence de presse, c'est vrai que Paris Aménagement, notamment, pousse vachement. Il y a des personnes, des collectivités qui poussent beaucoup plus leur site que d'autres. Est-ce qu'il y a encore des réfractaires au hors-site ? Est-ce que, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout convaincues par le hors-site ?
J'en vois de moins en moins parce qu'on voit, en fait, sur le marché arriver des solutions qui sont relativement fiables. Je pense qu'on a passé le stade de l'innovation et maintenant on a des composants, voire des modules qui sont réalisés en industrie. Et qui ont plutôt convaincu ceux qui ont commencé à travailler avec ces dispositifs. Après, on aura toujours de toute façon un peu de méfiance parce que comme on n'a pas le recul qu'on peut avoir sur la construction traditionnelle, absolument. Et puis, il faut aussi bien insister sur le fait que quand on construit en hors-site, on peut garder toute une diversité de formes architecturales qu'on a en construction traditionnelle. Et donc, il faut sans doute mettre fin à une forme de préjugé qu'on peut rencontrer parfois sur le fait que la construction hors site, ce serait que des opérations très tramées qui se ressemblent énormément les unes par rapport aux autres.
Savoir se réinventer.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup, Cédric Loret, pour cette interview.
Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.